Je vais prier pour Anna avant qu'elle nous apporte ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Seigneur, je te prie pour Anna, pour les mots que tu as voulu qu'elle nous amène ce matin. Seigneur, je te demande que tu la bénisses, que tu lui donnes la paix pendant cette prédication. Et Seigneur, que tu, pour nous, tu ouvres nos cœurs aussi à ce que tu as envie de nous transmettre au travers d'Anna. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci. Bonjour. Désolée, je dois me préparer. Déjà, je vais ouvrir la Bible. Je dois changer mes lunettes, sinon je ne peux pas lire. Du coup, ça prend un petit moment. Attendez, la zapette. J'aurais besoin d'un assistant pour pouvoir bien m'installer ici. À l'arrivée, parce que, franchement. Merci, il y a déjà la première image du PowerPoint. Je vais y arriver. Tu peux enlever ça ? Merci. Quand j'ai appris, ça fait déjà quelques mois, que j'allais prêcher aujourd'hui, le 1er mars 2026, j'ai tout de suite su que je devais prêcher sur les livres d'Esther. Et pourquoi ? Bon, déjà, parce qu'aujourd'hui, en fait, les baptêmes des deux jeunes femmes. Déjà, félicitations. Esther, c'est un de deux livres de la Bible qui porte les prénoms d'une femme. Et les personnages d'Esther, si vous ne les connaissez pas, c'est aussi une jeune femme, comme vous deux. Une deuxième raison. Les livres d'Esther instituent une fête juive, la fête des Pourim, qui célèbre les événements racontés dans les livres. Et cette année, la fête des Pourim tombe précisément demain, 2 mars, et le mardi, 3 mars. Il fonctionne avec les calendriers lunaires et du coup, ça change chaque année. Du coup, en parlant d'Esther aujourd'hui, à l'air de rien, on s'écale avec les calendriers juifs. Et c'est leur manière aussi de cheminer vers la Pâque. Encore une troisième raison, il y en a quatre. J'ai entendu quelqu'un à l'église dire que les livres d'Esther sont très peu connus. Je pense que cette personne a raison. Il est peu ou mal connu dans les milieux chrétiens, parce que peut-être on les voit comme une histoire très juive, sans connexion avec notre foi chrétienne. Un livre en plus où le nom de Dieu n'apparaît pas. Mais comment c'est possible? Les livres d'Esther est autant un méconnu ou mal connu chez les chrétiens, autant c'est un classique incontournable chez les juifs. Et ça se trouve que j'aime beaucoup les livres d'Esther. En fait, c'est un de mes livres préférés de toute la Bible. Un livre sur lequel probablement j'ai lu beaucoup de choses. Et ça se trouve que je n'ai jamais parlé de ces livres. Jamais jusqu'à aujourd'hui. Si un jour je me perds, s'il vous plaît, allez me chercher parmi les pages du livre d'Esther. Et il y a une quatrième raison qui s'est imposée à moi ce week-end et qui m'a fait vraiment, finalement j'ai bien compris, une raison qui vient s'ajouter et pour laquelle je suis pour rien, et c'est l'actualité internationale. On a parlé un peu au moment de la prière. On sait, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. Et vous pouvez vous dire, mais bon, et quoi ? Bon, l'histoire d'Esther se passe dans l'Empire perse, que c'est l'ancêtre de l'Iran. En fait, aujourd'hui, ces jours-là, on pourrait visiter les mausolées d'Esther qui se trouvent dans le sud de Téhéran. Ces pays, l'Iran, que depuis la révolution islamique de 1979, a déclaré la guerre ouvertement à Israël, qui appelle le petit Satan, aux États-Unis qui appellent les grands Satan, et en fait à tous les juifs du monde que le régime voulait exterminer. Et je trouve que c'est une grande ironie, parce que qu'est-ce que racontent les livres d'Esther ? Bon, on pourrait les résumer, très résumer, dire que c'est les récits du premier essai d'Holocauste de l'histoire. C'est l'histoire, comme de l'Iran contemporain, d'un tel qui machine pour exterminer les peuples juifs. Et tout cela parce que, comme quoi, comme dirait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Mais allons au début de l'histoire, de notre histoire. Pour mon propos, je vais devoir vous raconter de manière résumée les déroulements des événements jusqu'à arriver au passage qui m'intéresse pour aujourd'hui. Alors, désolé pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Je vais essayer de les faire un peu, pas trop lourdes. Alors, ça fait très longtemps, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans un pays très lointain, c'est-à-dire l'Empire perse, l'actuel Iran, on retrouve une jeune femme juive, Esther. Pour rappel, les Juifs vivent en exil, ils ont été déportés après la chute des deux royaumes. Esther est une fille, une orpheline, des pères et des mères, qui vit avec son tuteur et cousin, Mardoché, dans la capitale de l'Empire, la ville des Sus. Mardoché, son tuteur et cousin, qui est aussi juif, travaille comme haut fonctionnaire pour l'empereur. Aucun de deux ne va pas dévoiler au début de l'histoire leur origine juive. Du coup, on a déjà deux protagonistes de l'histoire, Esther, la jeune fille orpheline, son tuteur et cousin Mardoché. Il nous manque deux autres protagonistes. Les troisièmes, c'est l'empereur. Donc, quelques versions, peut-être vous trouvez Xerxès, dont ma version, c'est Assuérus, mais c'est la même personne. Un jour, l'empereur décide de congédier sa femme. On ne va pas rentrer dans les détails. Et aussitôt, il s'est mis à la tâche de chercher une nouvelle épouse. Et par un heureux concours des circonstances que je vous épargne, Assuérus va choisir Esther comme sa nouvelle épouse. Waouh, cette jeune fille orpheline, exilée, soudain devenue l'épouse de l'empereur. Voilà, on est arrivé aux trois protagonistes. Il nous manque les quatrièmes, que je vous annonce déjà, c'est les méchants de l'histoire. Il s'appelle Aman. Et là, on voit qu'on est dans une église chrétienne et qu'on n'est pas dans une synagogue, parce que si dans une synagogue, on dit les noms d'Aman, tout le monde va se mettre à hurler et à taper des pieds et à faire des bruits, parce que c'est les méchants. Et c'est qui Aman? C'est un haut fonctionnaire aussi de l'empereur qui, juste au début de l'histoire, va être promu au rang des premiers ministres. Il sera la main droite de l'empereur. À noter qu'à ces moments, la Bible nous dit que l'empire comprend 127 provinces de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Énorme. Et par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais, dont Mardoché, devaient s'agenouiller et se prosterner chaque fois qu'Aman passait par là. Mais peut-être vous avez deviné, Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait devant Aman. Mardoché ne s'agenouille pas ni ne se prosterne pas parce qu'il sait qu'il doit obéissance au roi des rois, avant de la devoir avoir allégeance au roi, tout court, à l'empereur. Et on sait, si on a lu la Torah, qu'on ne doit adorer personne, seulement Dieu. La désobéissance de Mardoché rend Aman furieux, dit les textes. Et pour cela, Aman résolut d'exterminer tous les Juifs de l'Empire perse. Une histoire qu'on connaît. Aman convainc l'empereur de rédiger un édit pour l'extermination d'un peuple. Il ne dit pas lequel, et l'empereur, c'est vrai, ne pose pas la question non plus. Il dit, il y a un peuple dispersé dans l'empire, qui est inassimilable, qui a des lois différentes, qui n'obéissent pas aux lois impériales. C'est peut-être le premier discours antisémite de l'histoire, et malheureusement pas le dernier. L'édit donnait les droits à quiconque dans l'Empire perse, vous voyez, d'Éthiopie jusqu'à l'Inde, d'attaquer, massacrer, tuer, piller les Juifs, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, un jour précis, les 13 d'Adar, que c'est une date du calendrier perse et juif. Voilà, organiser déjà les premiers pogroms de l'histoire, et malheureusement, ce n'est pas les derniers. Quand Mardoché apprend la nouvelle, oh là là, il demande à Esther d'intervenir. Rappelons-nous, Esther est devenue la femme de l'empereur. D'abord, Esther hésite. Elle ne veut pas intercéder. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Parce que même en étant la femme de l'empereur, elle ne pouvait s'en approcher librement. Tout homme ou toute femme qui pénétrerait dans la cour intérieure du palais pour se rendre auprès de l'empereur, sans avoir été convoqué par lui, serré, mis à mort. Sauf si l'empereur lui tend gracieusement son sceptre d'or. Ça veut dire que si Esther ose y aller sans avoir été invitée, même elle risque la mort sur les champs. Soyez rassurés, finalement Esther osera aller voir l'empereur, avec l'espoir bien sûr de pouvoir intercéder pour son peuple et les sauver de l'extermination. L'empereur lui fera grâce, lui tendra son sceptre d'or. Elle va les voir, oui, mais les choses ne vont pas se passer comme on pourrait attendre comme lecteur, parce qu'elle ne va rien lui dévoiler. Seulement, elle invite à un banquet avec Aman, c'est les premiers ministres. Et ils vont vivre ces banquets, et pendant les banquets, à nouveau, elle ne va rien raconter. L'empereur lui dit, mais quelle est ta demande? Quelle est ta requête? Et elle répond, que l'empereur et Aman, à nouveau, viennent chez moi pour un deuxième banquet. Et on arrive au texte d'aujourd'hui. J'ai oublié de passer. Voilà, la prédication, je l'ai titulée Esther, les chemins de la mort à la vie. Et on se trouve dans les livres d'Esther, qui est entre Esdras, je pense, entre Néhémie et Job, si vous voulez chercher dans votre Bible. On est au chapitre 5. Jusqu'ici, je vous ai raconté tout ce qui se passe jusqu'à ce moment-là. Chapitre 5, du verset 9 au 14, et j'ai lu la version du Semer. Aman s'en retourna ces jours-là, joyeux et les cœurs en fête. Il vient de sortir du banquet d'Esther. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Et c'est lui, ne s'éleva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé, en l'élevant en rang supérieur au ministre et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'empératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invitée avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ces juifs Mardochée assis à la porte du palais impérial. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent, mais il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres, ce qui fait presque un bâtiment de 7 étages. Et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y prenne Mardochée. Voilà. Puis, tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. Cette proposition plut à Aman et il fit faire la potence. Jusqu'ici, les textes, les passages pour aujourd'hui, je vais prier. Ah, merci Seigneur pour ta parole tellement belle qui nous apprend tellement de choses de toi. Je te demande Seigneur que tu nous bénisses maintenant, que tu envoies ton Saint-Esprit pour qu'il ouvre nos oreilles, pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin, Seigneur. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais tu le sais. Et tu ouvres, Seigneur, aussi ma bouche pour que ma bouche soit ta bouche. Et je demande ça, au nom de Jésus. Amen. Bon, après lire ces textes, on dirait que Aman a tout ce qu'on peut désirer. Lui-même, il passe, il fait la liste. Depuis l'extérieur, il devait être un homme comblé, heureux, une position incroyable, le deuxième, après l'empereur, hyper riche. Il a une femme et 10 enfants. Dans la tradition perse comme dans la tradition juive, les enfants ne sont pas des contraintes, sont des bénédictions, des cadeaux. Alors, pourquoi est-il malheureux? Je laisse la question ouverte, je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, je ne vais pas vous raconter pas trop comment continue l'histoire, la deuxième partie de l'histoire. Là, on est à moitié vraiment du livre. Le livre, c'est que 10 chapitres. Du coup, je vous encourage à aller voir comment ça continue. Ça se lit comme un roman, vraiment. Seulement, je vais faire une petite pause pour vous dire que cette potence que Aman a dressée pour Mardochée, c'est là où Aman va être pendu. Et d'ailleurs, pour la curiosité du détail, en Iran, la potence, c'est aussi la pendaison, c'est aussi la manière de tuer, exterminer depuis 1979 la plupart des rebelles qui osent faire face au régime des ayatollahs. Toujours, aujourd'hui. C'est la manière de punir, et aussi dans la Bible, les rebelles. Bref, et je fais une petite parenthèse pour parler d'une loi spirituelle. Souvent, on la retrouve en fait partout dans la Bible, des Genèse, Apocalypse. Et quand j'ai l'occasion, je la répète parce que je pense qu'on n'arrive pas vraiment à la intégrer. Il faut savoir que le mal que nous faisons va se retourner contre nous comme un boomerang, plus tôt ou plus tard. On pourrait dire, voilà, le régime des ayatollahs, ça a pris 47 ans. Mais les 47 ans se sont écoulés. Pour Haman, ça va être vite, en fait. Hein. Mais ce qui nous apprend la Bible, c'est que le voleur sera volé. L'arnaqueur sera arnaqué. C'est lui qui tue par l'épée sera tué. Et la potence que tu dresses pour ton ennemi, bon, c'est là où tu vas être pendu. Et peut-être vous vous dites aujourd'hui, mais attends, Anna, moi je ne sors pas avec une épée et tuer personne. J'ai dressé aucune potence, il y a encore moins de 25 mètres. C'est quoi cette affaire? Mais la vérité, c'est que la Bible aussi nous apprend, grâce à Jésus, que le mal s'installe déjà bien avant qu'on a l'action mauvaise. Si la loi, par exemple, disait, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu commettras point d'adultère. Jésus nous dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Du coup, toutes les idées, toutes les croyances, tous les mots, toutes les choses qu'on entretient dans nous, et c'est pour faire mal à l'autre, comme la vengeance, le désir de vengeance, la rancune, les non-pardons. Même si ça n'arrive pas à s'exprimer à l'extérieur, c'est du mal que nous croyons envoyer vers les autres. Mais en fait, c'est un mal qui finit par revenir contre nous, comme un boomerang, pareil que pour Haman et sa potence. Nous nous empoisonnons à nous-mêmes et nous pourrissons la vie. Mais bon, c'est un petit parenthèse que je ne pouvais pas éviter de faire. Je reviens à notre texte d'Esther. Je disais qu'on est à la moitié du livre. C'est 10 chapitres seulement, c'est très court, ça se lit en moins d'une demi-heure. Et le suspense est à son comble, si vous avez bien suivi l'histoire. Puisque Mardochée-là risque d'être supplicié avant même que le deuxième banquet d'Esther ne débute. Est-ce qu'Esther va finalement parler franchement, cracher les morceaux à l'empereur, en plus de passer le temps à manger et à boire avec lui? Est-ce que l'empereur, s'il apprend la nouvelle, va donner la raison à Esther, ou plutôt va se rallier à côté d'Haman, qui après tout, c'est son premier ministre? Et surtout, comment vont-ils faire pour éviter les massacres? Parce qu'il faut savoir que ces décrets, ces édits de l'empereur, ne peuvent pas être effacés, éliminés. On ne peut pas faire marche arrière. Alors, je ne vais pas vous détailler qu'est-ce qui se passe, je ne vais pas raconter seulement pour vous soulager, pour si quelqu'un est un peu stressé pour l'histoire. L'histoire finit très bien. Très bien pour Esther, pour Mardochée et pour les peuples juifs. Et là, je vais me concentrer sur les derniers mots de le passage que j'ai mis en gras, les mots potence. Parce que la première moitié du livre d'Esther, que je vous ai résumé vite fait, il y a plein de détails que j'ai passés, raconte, on pourrait dire, une chaîne troublante des situations pour Esther et son peuple. On va des mal en pire, comme dans une spirale infernale, sans frein et sans fin. Mais à partir du mot potence, il faudra me croire, parce que vous n'allez pas lire maintenant les restes, hein, il y a un renversement des situations miraculeux. La toute dernière parole dans la première moitié du livre en hébreu, si on lisait ce texte en hébreu, c'est le mot potence, qui en hébreu c'est etz. Ces mots, la première acception c'est havre. Dans ma version, c'est traduit potence. Dans d'autres versions, peut-être c'est bois. Mais il faut savoir que ces mots nous placent au moment le plus bas de l'histoire, des plus grands désespoirs. Et c'est les mêmes mots qui sont utilisés par Luc dans l'évangile pour parler de la croix de Jésus. Du coup, excusez-moi, mais Jésus est là. Et c'est pas seulement il est parmi nous, il est dans ces textes. Et pour ainsi dire, caché, Esther, ça veut dire aussi caché, les mots d'Esther, les noms d'Esther, il est annoncé, il est préfiguré dans l'histoire d'Esther. On pourrait dire la croix de Mardochée, si vous permettez. C'est là où Dieu a changé l'histoire du peuple juif. Et je vous assure que c'est un renversement des situations impossible à faire humainement. Dieu intervient dans l'histoire de ce peuple. Et pareil, Mardochée a été presque pendu. Jésus, les fils de Dieu, lui, oui, a été crucifié. Et c'est pas seulement un truc qu'on apprend dans les évangiles, c'est un fait historique. Et il a vaincu les péchés et la mort. Et pareil qui va arriver pour Aman, il a humilié publiquement l'ennemi de l'humanité. La croix de Jésus, on pourrait dire, c'est cette charnière, c'est renversement de l'histoire universelle. Lui, avec son sacrifice à la croix, il a ouvert les chemins, il a tracé un chemin pour qu'on puisse s'approcher à nouveau avec confiance du trône de Dieu, notre Père, comme dit la lettre aux Hébreux. L'histoire du livre d'Esther, on pourrait dire, c'est aussi les livres des Mardochée, l'histoire de cette juif qui va être humilié tout au début de l'histoire, presque pendu à la croix, mais à la fin va être exalté. Pour tout vous dire, il va prendre la place d'Aman, les deuxièmes dans l'Empire, et il va porter les saluts pour son peuple, mais pas que, mais pour toutes les nations dans l'Empire. Est-ce que cette histoire vous semble familière? L'histoire d'Esther nous donne un avant-goût de la Pâque. C'est, si vous voulez, une Pâque avant la Pâque. C'est les chemins que Dieu trace de la mort à la vie. Et c'est grâce à lui, à son intervention. Je ne veux pas dévoiler qu'est-ce qui se passe parce que je veux laisser les suspens pour que vous alliez lire, hein, mais devez me croire. On pourrait dire que l'histoire de la Bible, tout en global, des Genèses à l'Apocalypse, on peut la résumer de beaucoup de manières. Mais c'est aussi l'histoire de la lutte pour que la sémence choisie, celle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Judas, et comme ça jusqu'à la Messie, jusqu'à les Messies, continue à vivre. Il faut savoir que si les plans d'Aman triomphaient et tous les Juifs étaient exterminés, aujourd'hui on n'aurait pas des Messies à qui adorer. Parce que la première chose qu'on apprend de Jésus, quand on ouvre les évangiles en Matthieu, chapitre 1, verset 1, voici la généalogie de Jésus, le Christ, fils de Abraham et de David. Et vous vous dites, mais et quel rapport avec ma vie? Bon, parfois dans notre histoire propre, personnelle, on se sent dans un passage pareil à celui d'Esther et de Mardochée. On se voit descendre dans une spirale infernale, sans frein, sans fin. On se dit qu'on ne peut pas tomber plus bas. On voit la potence se dresser devant nous et on sent qu'on est arrivé à une voie sans issue. L'histoire d'Esther nous apprend, nous rappelle que Dieu est plus fort que tout. Que Dieu est bien sûr plus fort que l'ennemi. L'apôtre Paul nous dit, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Et qu'il est aux manettes, même si on n'écrit pas son nom dans les textes. C'est lui qui a les derniers mots. Il intervient dans l'histoire de son peuple. On pourrait dire, il l'a fait ce week-end, pareil, et dans notre histoire personnelle. Et je voulais vous dire que l'histoire d'Esther, c'est une histoire en V. Pourquoi? Parce que c'est le triomphe de la vie au lieu de la mort. Notre Dieu est le Dieu des vivants et nos demeures. Il a créé la vie, il la protège, comme dans cette histoire, et nous encourage à faire pareil. Jésus nous promet ainsi une vie abondante. N'oublions jamais ça. Et l'histoire d'Esther, c'est aussi une histoire en V, parce que c'est V des victoires. Au début du récit, tu sembles partir en cacahuète. C'est des grands golets. Et pourtant, soudain, quand tout semble perdu, un renversement de la situation, un renversement miraculeux. Dieu est là et il a les derniers mots. Le livre d'Esther est aussi une histoire en V parce que le livre est construit comme un énorme chiasme. Et là, j'ai dit un mot qui semble un gros mot, chiasme. Mais non. C'est une figure rhétorique, c'est écrit en forme de V, qui apparaît souvent dans la Bible. C'est-à-dire, il s'est construit, il y a une intelligence derrière la construction de ces textes. Parfois, on approche la Bible d'une manière très, très basique, je dirais, les messages. Mais quand on rentre dans la structure et les textes, on voit des choses extraordinaires. Le livre d'Esther est construit comme un miroir. C'est deux parties. La charnière au milieu de la V serait les mots potence, bois, croix. Toute la première partie a son pareil dans la deuxième partie. C'est comme un miroir qui se voit. C'est, s'il y a un banquet ici, il y a un banquet là-bas. C'est lui qui est exalté là, il est humilié là. On voit ça. C'est lui qui est exalté, va se faire humilier. C'est lui qui est humilié, va se faire exalter. Et la charnière, les renversements des situations, c'est la potence. Mais en fait, ce n'est pas seulement l'histoire d'Esther. Plein d'histoires dans la Bible sont des histoires en V. V des vies et V des victoires. Et cela devrait nous encourager, même si on se trouve, nous, dans notre histoire, dans la charnière, dans les mots potences. Par exemple, rappelons-nous la traversée de la mer Rouge des Hébreux qui viennent de sortir d'Égypte, aussi très dramatique. Devant, ils retrouvent la mer, qui pour la conception juive, c'est synonyme de la mort. Ils ne savent pas nager, ce n'est pas un peuple maritime. Et derrière, l'armée égyptienne qui veut les massacrer. Et soudain, au point le plus bas, la mort certaine, l'ennemi avait dit « Vous allez tous mourir ». Non, non, Dieu fait un chemin. Dieu trace un chemin où il n'y avait pas de chemin. Et il traverse à pied sec. Moi, ces détails, je les trouve extraordinaires, non ? Les seigneurs, comme ils n'aiment pas l'eau, il va permettre que même pas une petite goutte d'eau tombe sur leurs pieds. Le Seigneur fait les chemins à nouveau de la mort à la vie. La potence d'Aman, on l'a vu. L'ennemi avait acté la mort du juste, le massacre des innocents, de tout un peuple. Mais c'est là même que Dieu, au lieu de la mort, il a les derniers mots et il proclame la vie. Au lieu de la défaite qui semble inévitable, il proclame la victoire. Et pareil, évidemment, pour Jésus à la croix. Abandonné de tous et même de Dieu. Il proclame les psaumes 22, ces versets connus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais il faut dire que si vous lisez complètement les psaumes 22, il commence très mal. Voilà, il pense que Dieu l'a abandonné. Mais soudain, il annonce que la victoire. Et il finit aussi très bien. En tout cas, dans l'histoire de Jésus et sa croix, on est au moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Plus bas, on ne peut pas descendre. Le Messie qui était venu pour sauver les Juifs et toute l'humanité de l'emprise du péché, d'ouvrir la porte pour accéder à nouveau vers les Pères, se retrouve pendu à la croix, à l'arbre, à la potence. Et lui, oui, il va mourir. Mais c'est là, au moment le plus bas, que tout change. C'est à nouveau que le Seigneur trace un chemin à travers de la mort, vers la vie. Alors l'histoire d'Esther, comme celle de la mer Rouge, et aussi celle de la mort de Jésus, peuvent nous attrister, bien sûr, si on reste sur les moments tragiques. Mais elles sont là pour nous encourager. Il faut lire les livres jusqu'à la fin. Il faut lire la Bible jusqu'à la fin pour se rendre compte que tout finit bien. Et je vais vous donner un scoop là. Dieu est l'inventeur du happy end. Ce n'est pas une invention des Hollywood ou des romanciers du 19e ou 20e siècle. C'est lui. Mais pour ça, il faut lire jusqu'à la fin les livres d'Esther, les évangiles, la Bible. Et vous, Lila et Sarah, aujourd'hui, vous avez fait aussi un chemin en V parce que vous vous êtes associés à la mort de Jésus. Le baptême symbolise qu'on partage sa mort, qu'on est même enseveli avec lui, dit la Bible, en rentrant dans l'eau. Et aussi, les baptêmes symbolisent qu'on partage sa résurrection en ressortant de l'eau. Vous aussi, vous avez passé symboliquement de la mort à la vie. Et on pourrait se poser la question, moi, en fait, je mets la pause, mais pourquoi Dieu fait ça ? À quoi cette espèce d'amour pour la tragédie, pour la solution, dernière minute ? C'est quoi ? C'était scénariste ? Parce que Dieu, c'est aussi un scénariste. Bon, alors je vous propose de ma propre contribution deux raisons que je trouve qui fonctionnent, mais c'est ma propre inventive. Bon, Dieu fait ça pour que cela soit clair qu'il existe, que tout le monde reconnaisse que l'Éternel, c'est le seul Dieu et que toute la gloire les revienne à lui. Parce que lui, il veut que personne ne se perde, que tous soient sauvés et que tous viennent à connaître, à reconnaître que lui est l'Éternel. Les pharaons, les Égyptiens, les Juifs, les mondes entiers, toutes les nations. Le peuple d'Israël existe encore aujourd'hui, malgré les pogroms, comme celui d'Esther, les essais de les exterminer, comme qu'ils ont subi pendant des siècles, des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ils sont revenus sur leur terre 2000 ans après leur expulsion par les Romains. Parce qu'il faut savoir que le peuple juif, il est expulsé par les Romains qui ne peuvent plus de ces peuples. En fait, ils exterminent pas mal des gens. C'est la fin du 1er siècle et la plupart des Juifs partent en diaspora. Et 1948, ils reviennent sur leur terre. Mais c'est quoi cette affaire ? Aucun peuple n'a fait ça. Ils ont même ressuscité leur langue, l'hébreu, qui était morte et ensevelie. langue, l'hébreu, c'était une langue de la Bible, mais un peu comme, si vous voulez, les latins. Alors, tout cela et plein d'autres choses que là, je n'ai pas le temps de vous expliquer, ne peut pas se raconter sans l'intervention de Dieu. Je pense que ça se passe comme ça parce que Dieu est fidèle. Il a fait une alliance, Abraham, une alliance éternelle. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Et le peuple d'Israël a pour mission première d'être témoin de l'existence de Dieu parmi les nations, parmi nous. Je vous lance les défis, si vous voulez, à explorer, étudier, l'histoire du peuple d'Israël, biblique et extra-biblique, jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez qu'on ne peut rien comprendre de tout ce qui se passe si on ne met pas les facteurs spirituels, l'intervention de Dieu, comme dans l'histoire d'Esther. Et peut-être, je dis, parce qu'ils sont témoins de l'existence de Dieu. Parler de juifs, c'est parler de Dieu, c'est parler de la Torah, c'est parler des lois morales, etc. Ils réveillent tellement de haine contre eux. C'est la raison peut-être pour laquelle Aman ne supportait pas Mardoché. En tout cas, Dieu est bon et fidèle, il est là. Mais l'ennemi aussi, il est vrai et actif. Alors ça, c'est la première raison que je vous propose à votre délibération, considération. La deuxième, c'est pour nous offrir une joie, j'ai envie de dire, surhumaine. Le peuple d'Israël va fêter avec joie la victoire dans l'histoire d'Esther, avec la fête, je vous en ai parlé au début, des Pourim. Et en fait, je pense qu'ils vont fêter déjà aujourd'hui un Pourim avant Pourim. Parce que les grands leaders, l'Ayatollah Ali Khamenei, il a été apparemment déjà éliminé. Aussi, après les passages de la mer Rouge, on voit qu'ils sont dans une joie extraordinaire. C'est Exode chapitre 15, Sam nous en parlait la semaine dernière, comment la joie, la louange a jailli spontanément. Parce qu'ils ont passé un moment horrible, je vous disais, devant la mer, c'est synonyme de la mort. Les soldats égyptiens, ils vont nous tuer, qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Et non, ils sont toujours vivants. Et par contre, ils voient les cadavres des soldats égyptiens noyés. Mais comment ça? Et que dire de la joie des apôtres quand ils rencontrent Jésus, qu'ils pensaient qu'il était mort, abandonné, là, et il a ressuscité. Marie Magdala qui va au tombeau de Jésus pour s'occuper de son cadavre, et surprise, elle le retrouve bien vivant. En se promenant dans le jardin, on peut qu'imaginer cette joie extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut expérimenter une grande joie si on n'est pas passé par une grande tristesse? Est-ce qu'on peut célébrer la résurrection si on n'a pas traversé la mort? Alors, c'est un jour des fêtes, c'est un jour des joies, ça a été dit et chanté déjà, parce que dans toutes ces histoires bibliques et personnelles, chacun peut penser à la sienne, l'ennemi, qui est vivant aussi, qui agit parce qu'il est prince de ce monde, voulait et veut anéantir, massacrer, faire revenir les hommes et les femmes à l'esclavage. Mais Jésus est mort à la croix. Pour vous deux, Lila et Sarah, même si vous étiez les deux seules personnes sur terre, mais aussi pour nous tous, parce que Dieu veut que personne ne se perde. Et on sait que, du coup, l'histoire change, qu'il y a un renversement des situations, qu'après la mort c'est comme un mirage, il y a la vie, la résurrection. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, quiconque croit en lui, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'ennemi était vaincu à la croix et humilié publiquement. Et du coup, on n'a rien à craindre, mais tout à espérer. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, on peut tous avoir une vie abondante et proclamer la victoire. Alors, réjouissons-nous. Bon, j'ai cité déjà deux fois la fête des Pourim, qui est racontée dans les livres. En fait, les livres même à la fin disent « Maintenant, Esther et Mardoché, on va instaurer cette fête qui célèbre les événements racontés dans les livres. » Et je disais, c'est demain et après-demain, parce que les jours dans les calendriers juifs ne commencent pas comme les nôtres au début du soleil, c'est au coucher du soleil. Ça va du coucher du 2 mars au coucher du soleil 3 mars. Alors là, je vous ai mis un visuel qui dit « Pourim Sameach ». Ça, c'est en hébreu pour dire « joyeux Pourim ». Par les visuels, vous verrez que c'est une fête qui rappelle au peuple juif que quelqu'un voulait les détruire, mais ils ont vaincu contre tout pronostic et contre tout espoir. Ce qui est en fait une histoire qui se répète et se répète et se répète depuis la nuit des temps. Et du coup, maintenant, ils se disent, puisque on était presque morts, on a survécu, on ne sait pas trop comment, hop, mangeons, fêtons, faisons la fête. Et c'est un peu style carnaval, si vous regardez les visuels, hein, on dit un peu c'est les carnavals, les styles juifs. Et pour ne comporte pas seulement un accent des joies, des carnavals, il est demandé à chacun de se souvenir de son prochain et d'offrir des cadeaux à ses amis et des dons en argent, aux natures, aux pauvres. Pour être total, la joie ne saurait aller sans geste des partages et des solidarités. Alors, pour rester un peu dans l'ambiance festive et suivre la tradition juive, j'ai fait ça. J'ai confectionné des petites sucreries qu'on mange pour Pourim et qui s'appellent les oreilles d'Aman. Voilà, chacun de comprendre pourquoi. Alors, c'est de la farine avec du beurre, avec du sucre glace, des œufs, et après, les farcis, on met ce qu'on veut. Alors, j'en ai fait quelques-unes pour offrir à nos baptisés, je les ai là, et après quelques-unes aussi pour les repas fraternels. Je n'ai pas pour tout le monde, mais il y en a quelques-unes. Et pour finir, je vous laisse avec un verset extraordinaire. C'est le premier verset du psaume 136. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Et vous savez quoi? C'est la deuxième partie du verset, car son amour durera toujours. Il est répété 26 fois seulement dans ces psaumes. Et dizaines et dizaines et dizaines de fois dans tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors je vous encourage à vous souvenir aujourd'hui, jour de joie, jour de victoire, jour de fête, que l'Éternel est bon, car son amour durera toujours. Alors je vais prier. Je vous laisse avec notre visuel, Pourim sa mère. Si vous avez des amis, des voisins juifs, si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez lui dire Pourim sa mère. Et je finis par la prière. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a pu passer autour de ta parole et de ces textes que j'aime tellement. Seigneur, je te demande que tu bénisses chaque personne. Et s'il y a quelqu'un là dans la salle qui ne te connaît pas, mais qui est peut-être touché parce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, les chants qu'on a chantés, je te demande que tu ouvres son cœur. Que cette personne puisse avoir envie de te demander de venir dans sa vie. C'est si simple comme dire, Seigneur Jésus, je vais te connaître. Viens dans ma vie, envoie ton Saint-Esprit, parce que je veux aussi cette vie éternelle que tu promets. Je veux aussi cette vie abondante à côté de toi. Et je te demande tout ça au nom de Jésus. Amen.